je me suis rapproché du sujet de la solitude. Je me suis déjà rendu compte auparavant que ce n'était pas un problème facile ni à résoudre, ni à développer, à résoudre surtout pas, parce que la solitude passe pas chaque fois en cas d'espèce. Et ces aspects sont tellement variés, tellement graves aussi. On hésite parfois à avancer des choses dont on n'est absolument pas certain. Alors je me suis mis à lire un tas de bouquins de gens éclairés, beaucoup plus éclairés que moi sur le sujet. Et j'en suis arrivé à faire une sorte de synthèse de ce que j'ai pu réunir par des lettres de gens qui m'ont écrit et de ces fameux bouquins. J'ai découvert moi-même des choses que j'ignorais, notamment la première qui va probablement vous étonner aussi. Ira Tanner, un sociologue bien connu, dit que la solitude commence à prendre racine dès l'enfance, entre 1 et 3 ans. C'est une condition qui se trouve à la racine de la vie. Pendant ces années de formation, nous commençons pour la première fois à éprouver des doutes quant à notre valeur personnelle. Si vous avez personnellement qu'entre 1 an et 3 ans, je me posais déjà des questions, si je me posais, je ne sais pas, si j'avais la faculté de me poser, mais je suis persuadé que ces gens d'expérience savent de quoi ils parlent. Il est évident que la responsabilité des adultes joue un énorme rôle dans la solitude que nous allons éprouver plus tard dans notre vie. Pour des raisons diverses. Lorsque je parle de la solitude, je ne parle pas de la solitude accidentelle, que celle qu'on éprouve en dépit de tout ce que nous avons, du bonheur que nous avons, du confort que nous éprouvons, ou des choses qui nous entourent et qui devraient nous permettre d'être heureux, mais nous sommes solitaires. Il y a aussi un gros problème au niveau des adultes. C'est que nous avons une tendance, nous, à négliger la tendance qu'ont les enfants de se sentir de temps en temps solitaires, de découvrir une certaine solitude. Nous mettons toujours cela sur le coup de petites disputes avec des copains ou des choses qui n'ont absolument aucune importance ou aucune valeur. Et c'est là, je pense, que nous commettons nos erreurs. Toujours par le même Ira Tanner, qui a écrit plusieurs ouvrages, il nous dit que nous, les adultes, nous insistons tellement sur la position sociale, l'éducation, le matérialisme, l'engagement social, que nos consciences sont apaisées si nous avons le sentiment d'avoir fourni à nos enfants le nécessaire de la vie et même de nombreux luxes. Et il continue en disant que les enfants ne savent pas qu'ils sont seuls lorsque les parents leur donnent l'impression d'être trop occupés pour entrer dans leur petit monde. Il est rare que les parents reconnaissent la cause d'une conduite inacceptable, de mauvais estomac chronique ou de moyens divers pour attirer leur attention sur eux, et c'est ce que les petits font. Tout cela pourrait être à même de pouvoir dire au dessin et dire « Je suis là, je suis petit, s'il vous plaît, faites attention à moi. L'enfant traverse au niveau des parents ou ceux qui sont parents, tout au moins, et savent des sortes d'étapes. Il y a des vagues, ils creusent la vague, des hautes la vague. On ne sait jamais où les parents ils font se tenir exactement. Et nous finissons par les découvrir lorsque des enfants sont devenus adultes et eux-mêmes à propre expérience et qu'ils les en font pas. La solitude est sans doute le fléau des années d'adolescence, nous dit un autre écrivain, Nicky Cruz, qui a écrit un livre qui est très intéressant, que je vous recommande, Solitaire mais jamais seul. On peut trouver dans toute la librairie évangélique. Il dit, et je répète, la solitude est sans doute le fléau des années d'adolescence. C'est en effet un risque inhérent au passage à l'âge adulte. Dans la Bible, en Philippiens, toutefois, dans les versets 13 et 14, nous pouvons lire « Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. » Et voyons que l'apôtre Paul ici nous dit, nous montre du doigt un chemin à suivre, une direction, c'est l'avant. Jésus a dit lui-même, lorsque vous là pourrez ne regarder jamais en arrière. Et il est un fait que si on regarde en arrière, on se met à nous voyer. La qualité d'un bon labour, d'un droit, de labourer une certaine largeur de terre jusqu'au bout et de ne pas en oublier des portions. Le solitaire, lui, il va le faire. Il va regarder en arrière et sans cesse, malheureusement, et contrairement à ce qu'il ne devrait pas faire, il va ressasser sans cesse de petits événements de sa vie passée, souvent de sa vie d'enfance, et les monter en épingle de telle manière qu'ils prennent des proportions et des événements qu'ils n'auraient jamais dû prendre. Il y a beaucoup de facteurs déterminants chez l'adolescent pour prendre une attitude que très souvent nous ne comprenons pas ou nous ne comprenons plus. La conduite du jeune comporte à la fois des éléments graves et véniels. Il arrive très souvent qu'on ne distingue pas la différence, ni, et peut-être pas non plus. Ils ont, deuxième élément, l'intention très souvent de compter sur des amis, ils s'aperçoivent très tôt que les amis, c'est très joli dit, mais que généralement, on ne peut pas vraiment compter sur eux. Très tôt dans la vie, hélas, l'être humain se rend compte qu'il ne peut compter que sur un être, c'est lui-même. Mais, chacun va faire sa propre expérience. Le jeune qui a découvert que les adultes n'agissaient pas, ou croient avoir découvert que les adultes n'agissaient pas comme ils doivent vis-à-vis de lui, qu'il s'est rendu compte à son corps défendant et à ses propres risques et douleurs que ses amis n'étaient pas non plus ce qu'il pouvait en espérer, a atteint un autre stade qui est le stade de l'amour avec un grand A. Un art comme ça. Et là, il va foncer tête baissée. Il ne se souvient de son premier rendez-vous, de son premier amour, c'était fantastique, c'était plus beau. Il n'y aurait jamais une fille ou un garçon autant que toi. Et depuis là, bon, on en a allé, je ne sais plus combien. Mais l'important là-dedans, c'est de voir que nous luttons contre différents obstacles, que, au fond, ces obstacles font l'expérience. L'expérience peut être heureuse, elle peut être malheureuse. Très souvent, cette expérience crée chaque fois des petits éclats à une partie de notre individu. Il y a une conclusion à tirer déjà par le jeune très tôt dans sa vie, et il attire trop vite. Est-ce que la vie veut vraiment la permettre vécue? Et alors nous assistons à une chose qui est vraiment navrante, parce qu'inutile. Nous n'allons pas y toucher ce soir parce que c'est pas possible. C'est le suicide des jeunes. Notre époque connaît beaucoup plus de suicides. En réalité, il y a 400% et un peu plus de suicides aujourd'hui qu'il y en avait il y a 22 ans. Pourquoi? Probablement parce qu'il a souffert intensément de certaines choses, parce qu'il se sent comme puni par des événements, par des choses, par des individus, parce qu'il se sent honteux, embarrassé, pitoyable, accablé, et qui ne s'est pas senti comme cela quand il était jeune. Il se sent surtout un lien de la société, déprimé tout à fait normalement, désorienté, mais surtout une chose, il est seul. Il est seul et il est seul. Et c'est une honte pour notre société d'avoir des jeunes qui se sentent seuls à n'importe quel âge de leur jeunesse. C'est une honte parce que nous devrions être là. Sa vie d'adulte assez jeune et assez jeune va être affectée très gravement s'il a connu l'un de ces facteurs déterminants. Il va devoir lutter toute sa vie pour essayer de surmonter ces choses. Et en attendant, il faut le dire souvent. Parce que faire le dire, ça paye. Ça, tous les gens le diront. Il suffit d'être rude, il suffit de parfois être méchant, de n'avoir pas beaucoup de considération pour les gens, et on commence à avoir peur de vous et de vous donner un caïd. Malheureusement, le chemin du caïd n'est même pas très loin. Donc, très souvent, derrière des barreaux, et là, on recommence un autre cycle. Je n'ai pas l'intention de parler uniquement des jeunes, que des jeunes ce soir. J'essaie tout simplement de faire un semblant de synthèse de ce qu'il peut nous arriver plus tard dans notre vie. Comment est-ce que des adultes, puisque adultes il y a, et que jeunes deviennent adultes, et que enfants deviennent adolescents, comment est-ce que les adultes arrivent à s'ennuyer dans la solitude? Parce qu'ils se souviennent, et c'est le premier des facteurs que les gens spécialisés qui traitent ces maladies nous diront, parce qu'ils se souviennent trop du passé. Quand tout l'avenir, ils ne regardent jamais en arrière. Et malheureusement, c'est exactement le contraire qu'on fait toujours. Et lorsqu'on regarde en arrière, on a toujours quelque chose à reprocher à quelqu'un. Et trois quarts du temps, c'est à ses parents qu'on les reproche. Ou à ses proches. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Parce que le comportement, ça va mal. L'agressivité, elle est là. Parce que personne ne peut comprendre. Le jeune adulte entre de plein pied dans un monde qui lui est en réalité pas tellement destiné. La sensibilité exacerbée du jeune qui entre dans une vie active pas longtemps qui quittent les études et qui, malheureusement, peut-être pas assez à cause du chômage, rentrent dans une vie active, ils rentrent sans avoir confiance en lui, et c'est un peu normal, mais il a l'impression que personne ne peut le supporter, parce qu'il a une attitude différente des autres, ce qui est tout à fait normal, et que les adultes admettent, mais lui, il ne s'en rend pas compte. Il prend la vie trop au sérieux, essaye de faire trop bien les choses et finit par faire tant qu'il est dit. Et il n'a surtout personne avec qui partager ses idées. C'est pas la peine de rentrer à la maison, on n'a pas le temps, de voir les copains, ça ne les inquiète pas, ça ne les intéresse pas, ils ont autre chose à faire. Personne ne doit pour écouter. Il se sent un peu comme un coupable. Et tout le monde autour de ce grand mot, culpabilité. Il n'y aurait pas de solitude qui marque, qui fait mal, si elle n'est pas accidentelle, s'entend, s'il n'y aurait pas la culpabilité. Cette culpabilité affecte notre comportement à un point tel que nous finissons par nous devenir complètement. Ça s'infiltre dans le domaine de notre être intérieur d'une manière très perverse. Les dispositions peu amicales que nous prenons parfois sont en réalité de deux ordres. Il y a ceux qui attendent toujours les premières paroles, le premier sourire, le premier pas chez les autres, ne veulent pas le faire eux-mêmes. Et il y a le deuxième qui va toujours vers l'autre et qui malheureusement se casse la nuit. La timidité se développe dès l'enfance. Il y a des enfants timides, il y a des enfants qui ne le sont pas, et pas assez. Il y a la dépression latente. Je suis venu de voir que déjà 2 et 3 ans, on commence à poser des questions inconscientes, probablement, mais on se pose. Alors, cette dépression latente qui est là, devient en quelque sorte comme une araignée dans sa toile, elle attend. Elle attend son heure, elle a tout le temps. Quand j'étais jeune, je disais toujours, mais c'est l'araignée. J'apercevais souvent des toiles qui étaient là depuis des mois, elle arrivait toujours à la même place, et la toile de ça, elle arrivait toujours là, mais elle attendait. Et là, vous voyez, une mouche qui arrive, puis la mort, mais elle a le temps. Elle prend son temps. Et on a presque l'impression qu'il s'agit d'un grand problème. La solitude attend son heure. C'est une manière de parler, bien sûr. L'esprit ne connaît jamais la paix. Pourquoi? Parce que la culpabilité, j'y reviens encore, elle se trouve là. Parce qu'elle a chassé la joie, elle a chassé l'enthousiasme qui était dans l'être et qui est seul. Seul et toujours seul. Il est effarant de voir, de parler, de correspondre avec des gens qui vivent dans des communautés très nombreuses, dans des immeubles ou dans des cités d'emploi et qui se sentent seuls. Ça ne devrait pas être. Et pourtant c'est comme ça. Bon, je me souviens très bien d'avoir habité moi-même pendant 5 ans dans un immeuble. Oui, c'est bien 5 ans. Et mes voisins de palier, si je peux, je n'ai pas besoin de résumer la conversation, je vais vous leur dire toutes les conversations que je voulais dire, ça va prendre un petit peu de temps, mais il fait beau, oui, il fait beau, bonjour, bonjour, au revoir. 5 ans. J'essayais pas mal. Partout où l'église s'est installée, nous sommes, mon expérience, ici vous êtes en parc en face, les gens au début nous fuient, ils ne veulent pas nous voir, ils ont l'impression d'être frustrés parce que en face de chez eux, nous s'est installé une communauté religieuse, donc on est comme on alors on dit pas bonjour. Mais avec la persistance, il y a moyen d'arriver à quelque chose. Je me souviens qu'à Toulouse, je parle d'un moment, il y a 25 ou 30 ans, des gens à qui on disait bonjour et qui vous regardaient, on disait bonjour, qui est en vert, et puis qui ne répondaient pas. Et puis le lendemain, bonjour, parce que bien fort, pour qu'on entende, pas répondre. Et sur la route, bonjour, ça va? Pas répondre. Ça peut durer un an et deux ans. Et puis un jour, on entend, on croit entendre, chou. On dit, t'es trompé, c'est pas possible. Fais l'essai de l'envers deux jours et on entend, chou. Ça y est, on y est arrivé. Et quels efforts n'a-t-il pas fallu déployer? Pourtant, les intentions étaient probablement bonnes de deux côtés. Il y avait un côté qui était plus timide que l'autre. Mais on doit l'autre. Les éléments qui contribuent à notre solitude actuelle sont tellement nombreux que je n'ose même pas en parler. Ou presque pas. Tellement nombreux parce que nous vivons dans une société moderne qui n'a pas le temps. On n'a pas le temps de rien faire. Sauf de braquer les banques, de faire les crimes, d'arracher les sacs de femmes, etc. Là, mais à part ça, on n'a pas le temps. Une constatation quand même importante s'impose. La solitude peut être ressentie d'une manière différente suivant les individus. Deuxièmement, elle aboutit souvent à des réactions différentes suivant les causes. Et cela multiplie les différences et les causes. Et troisièmement, elle se traduit par un état d'esprit différent suivant les effets. Il faut plus qu'une calculette pour multiplier les probabilités pour arriver à un résultat. Il n'y a pas de chiffre au-dessus. Ça, c'est notre société moderne. Chaque cas est un cas d'espèce. Il est valable que pour une seule personne, suivant les circonstances, suivant le cas, suivant les causes, suivant les effets. Certaines observations ont été faites. Le passé. La nostalgie du passé. Il y a des enfants qui se souviendront très bien d'événements qui se sont passés lorsqu'ils avaient 4 ou 5 ans. D'habitude, c'est à peu près l'âge où on peut encore se souvenir de certaines choses. Au sujet de personnes qui ont été gentilles vis-à-vis d'elles, et ne se souviendront pas d'autres personnes qui ont été peut-être moins gentils, je ne sais pas, mais qui vivaient exactement le même temps. Pourquoi il doit se rendre une raison, mais nous ne la connaissons pas. Mais tout ça agit sur notre subconscient, agit sur notre attitude vis-à-vis des autres. Et va agir, nous allons voir pourquoi. La situation, la fortune, un conjoint perdu, bien d'autres choses, peuvent jouer dans le comportement des êtres humains. Je me souviens d'avoir rencontré il y a 4 ans aux États-Unis l'ancien ministre du Chad Iran. Il se trouvait, disons, une soirée avec sa femme et il ne parlait que d'une seule chose, de l'Iran bien sûr. Et il parlait ensuite d'une autre chose, c'était combien le chat était bon et surtout qu'il possédait lui. Il était ministre de l'agriculture du chat d'Iran. C'était pas n'importe qui. Il n'était pas riche, il n'avait que cette voiture. il en était trois parents, et le chef d'Iran était un être absolument bon, il avait commencé à distribuer des terres, il a commencé à faire un tas de choses. Et je croyais, et je suis certain qu'il l'a fait, sans bien entrer dans la politique. J'espère qu'il n'y a pas d'Iranien, c'est finalement. Cet homme, pendant toute la soirée, n'a fait que de parler de ce qu'il avait, de ce qu'il n'a plus, qu'il n'avait plus. De la volonté du chat d'Iran et de la malignité, de ceux qui avaient pris sa succession. Et il revenait sans cesse avec le passé. Et j'imagine très bien cet homme encore aujourd'hui, en train maintenant, à cette heure-ci, de parler de l'Iran, de tout ce qu'il avait, de tout ce qu'il avait fait, de tout ce qu'il avait réalisé, mais qu'il ne pouvait plus réaliser, et qu'il voudrait bien recommencer, mais qu'il ne peut plus, et que là, on ne fait même pas attention à lui, il n'est rien. On compatit pendant un moment, on dit, c'est un problème, bon, et puis, bon, on le dit, on ne peut pas. D'abord parce que c'est pas intéressant, parce que, en réalité, pour nous en chaud, cette histoire de ce qu'il était, si cet homme pouvait regarder en avant et se dire j'étais ça, je ne suis plus, ferme la porte, ferme le bouquin et recommence autre chose. Mais il ne peut pas, parce qu'il pense que le passé. Et cet homme, pour le temps, va devenir agressif, il n'était pas encore il y a 4 ans, il était maintenant. C'est une sorte de méchanceté voulue que d'être isolé. Parce qu'on s'isole soi-même dans sa méchanceté. Une sensibilité extrême mène aussi à ce manque de communication. Souvent, on manque de confiance en soi-même. Et tout le monde sait très bien que le timide essaie de dominer sa timidité par un surcroît par une tendance à vouloir faire croire qu'on est doté d'un surcroît de connaissance et d'un surcroît de faculté et qu'on est vraiment quelqu'un dans la vie. Alors qu'on n'est pas. Mais lorsqu'on rentre chez soi, le voit-on et on sait ce qu'on est. Et on se sent seul. La solitude est vraiment quelque chose de terrible et j'espère que je ne la connaîtrai jamais, dans le sens du temps. Parce qu'elle passe aussi par un autre stade, c'est d'accorder trop d'importance à tout. Certains événements qui sont en réalité anodins, qui n'ont aucune très importance, sont pris un par un, mis les uns à côté des autres, et finissent par faire une bulle de feu qui entre dans ces pauvres gens, et les usages de l'âge parce que personne ne peut plus les comprendre. Et c'est normal. Là, oui, quand on rêve, et je suis certain que vous avez déjà fait l'expérience. On rêve d'un petit événement de rien du tout, et on le monte en épingle, et quand on rêve de cet événement-là, on pourrait presque pouvoir dire où je trouve le frein, freiner, se lever, se coucher, et passer à un autre sujet. Mais on ne peut pas. On a un événement en tête, et cet événement, on le recherche tout le temps, et on ne peut pas s'en débarrasser. Ça devient grave. Mais quand on se réveille, on dit, mais attends, c'était bon, cette histoire-là. Puis j'ai rêvé d'un tel ou d'une telle ou de telle ou telle chose. Ça n'a aucune importance. Et pendant toute la nuit, ça m'a travaillé, cette affaire. Mais ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il y a des gens qui font ça normalement. En bref, ce sont des gens qui malheureusement pinaillent sur des petits événements. Et se rend la vie impossible parce qu'il doit prendre trop au sérieux. Certains êtres sont joyeux et d'autres le sont moins. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est peut-être une question d'optimisme, de pessimisme? Je ne sais pas. Depuis 20 ans, je collectionnais des blagues d'optimistes et de pessimistes. Les gens connaissaient toute une série d'histoires dans la bouteille vide, dans la bouteille pleine. Je me souviens d'une de ces blagues, c'était deux petits garçons à l'école des expériences sur l'optimisme et le pessimisme. Et on avait pris deux garçons. Là, on l'avait enfermé dans une pièce, on l'avait mis dans une pièce, rempli de jouets, et l'autre, on l'avait mis dans une pièce où il y avait à peu près sa haute filière de cheval. Ça paraît étrange. Au bout de deux heures, on a ouvert la première porte, le petit garçon était assis là au milieu des jouets, en train de pleurer, en disant, il y a rien pour lui, il y a rien. Et dans l'autre, c'est pas difficile, il n'avait pas de garçon, il était mou. Il était en train de faire des trous. Il a dit qu'il y a un cheval, donc il y a un cheval. Et s'il y a un cheval, je m'en disais de cheval. Ça, c'était symbolique des choses. Mais bon, pourquoi on n'en sait rien, il voulait jouer avec le cheval. Il était logique avec lui-même. Et le premier, il avait des jouets tant qu'il en voulait, mais il les voyait même.